a grind. I can't stop looking, now I'm losing my mind. I finished my set and then they come and said hi. Belly, you're saying we're having such a good time. My name is Tracy, here this is Sky. Do you wanna come and party for the rest of the night? I said I certainly do.
Radio Canus en 2.2, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. De Radio Canu, la plus rebelle des radios, on vous le disait, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, bah vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Une heure ensemble d'actualité sociale, politique et internationale, surtout internationale d'ailleurs ce soir. Mais on va commencer par nos petits rappels de nos annonces habituelles.
Oui, le rappel habituel, du coup, l'ouverture de La Plume Noire, notre librairie, qui est ouverte tous les mercredis de 17h30 à 19h30, c'est juste avant cette émission, et les samedis de 15h à 19h.
Voilà, donc n'hésitez pas à passer, c'est l'occasion...
Sur
les pentes de la Croix-Rousse, l'occasion de rencontrer les militants et les militantes de l'UCL et de vous procurer toute la littérature libertaire qui vous intéresse. Une émission un peu particulière, on se disait, en descendant ensemble, pas très bonne pour le moral, un peu plombée par les événements aussi bien internationaux que nationaux. D'habitude, on a de grandes pages politiques et sociales sur les luttes qu'on peut mener, dans lesquelles on est impliqué ici ou ailleurs. Et on garde un peu l'actualité internationale pour la fin. Là, le contexte fait que cette émission, elle va être un peu construite à l'envers. On va beaucoup parler de l'actualité internationale. On s'en serait bien passé parce que c'est une actualité internationale qui sent la violence, le militarisme, la mort et l'obscurantisme, mais malheureusement qui risque d'avoir des conséquences importantes pour le monde et puis pour ici aussi, les rapports sociaux et les mouvements politiques. Et puis avant de se plonger dans cette longue page internationale, vous l'aurez compris, qui va essentiellement aborder la situation du Moyen-Orient, on voulait quand même commencer cette émission en revenant sur l'autre événement dramatique qui a frappé la France la semaine dernière. Bien sûr, l'assassinat qui a eu lieu à Arras, où on peut bien sûr qu'exprimer, comme beaucoup, hein, notre tristesse et notre colère lorsque nous avons appris la mort sous les coups de couteau d'un fanatique de Dominique Bertrand, un enseignant de français dans un lycée à Arras. Un assassinat qui intervient presque 3 ans après, jour pour jour, jour l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo en banlieue parisienne. D'ailleurs, pour la petite histoire, visiblement, l'assassin d'Arras était à la recherche de nouveau d'un enseignant d'histoire géographie et il a passé sa violence sur Dominique Bernard parce que celui-ci s'est interposé de peur qu'il y ait des conséquences pour ses élèves et pour protéger essentiellement ses élèves. On peut bien sûr que penser à ses proches, à ses collègues, à ses élèves, mais aussi à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale et des collectivités territoriales, puisqu'il y a un agent des collectivités territoriales qui ont été aussi blessés dans cette attaque. Alors aujourd'hui, toute la lumière, elle n'a pas encore été faite sur cette attaque, et puis peu importe, mais en tout cas, il semble bien que c'était, donc comme je l'ai dit, pas ce collègue qui était visé, mais que c'était plus particulièrement un enseignant d'histoire géo, et puis plus généralement la communauté éducative dans son ensemble qui était visée par cet acte. En tout cas, c'est un crime qui est une fois de plus lié au fanatisme religieux, dans un climat qui est déjà tendu, qui est marqué par les discriminations qui est vécu par toute une communauté avec les polémiques qui ont été menées en cette rentrée autour de la question de l'abaya, et puis bien sûr qui est marqué par la guerre à Gaza et les violences qui sont vécues par les populations dans cette région du monde. Alors, on peut qu'exprimer une certaine colère face à cette situation parce que l'éducation nationale, justement, et ses personnes ont volontairement été placés depuis la rentrée au centre d'instrumentalisation idéologique et politicienne sur les questions religieuses. Hein, nous nions pas que les personnels de l'éducation nationale ne sont pas régulièrement confrontés parfois au conservatisme ou à l'obscurantisme religieux, d'ailleurs de différentes tendances et de différentes catégories d'élèves. Mais dans la plupart des cas, ces personnels arrivent très bien à y répondre avec les outils des pédagogues, le dialogue et le raisonnement, et puis en gérant la question au cas par cas. Mais que par contre, les polémiques stériles au relent raciste comme celles qui ont été menées depuis la rentrée sur la question de l'abaya, elles n'ont pas d'autre but que d'alimenter en fait les agendas des politiciens du gouvernement et faire le doux lit de l'extrême droite et des populistes de toutes sortes, et qu'elles attisent bien sûr des tensions et des ressentiments, et qu'en attisant ces tensions et des ressentiments, elles mettent tous les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale en danger, et on en a eu la preuve la semaine dernière à Arras. Du coup, bien sûr, sur le fond, il faut être déterminé, qu'on soit personnel de l'éducation nationale ou pas, à ne pas céder un pouce des principes qui sont les nôtres en tant que travailleur, en tant que syndicaliste, en tant que citoyen conscient et se battant pour une émancipation de toutes et de tous, parce qu'il semble évident que le métier d'enseignant est un métier qui doit permettre aux élèves de s'éveiller à l'esprit critique. C'est la chose l'importante, qu'il est une des conditions, l'esprit critique, de l'élaboration du savoir, et puis que c'est une des voies de l'émancipation pour chacun et chacune, d'être capable de juger ce qui se passe autour de soi, de faire ses propres choix, et de pouvoir choisir ce qu'on veut faire dans sa vie, et faire des choix éclairés, et que pour ça, les personnels de l'éducation nationale ne doivent pas céder aux menaces qui pèsent sur la liberté pédagogique, ni à la peur du danger de mort qui pourrait frapper les enseignants, mais qu'au contraire, ils doivent continuer à défendre une pédagogie active qui encourage la réflexion collective et la pensée critique. C'est ce qui est le plus important. Ils doivent continuer à défendre l'école comme un lieu d'ouverture à tous les savoirs et refuser tous les obscurantismes. Et ils doivent aussi continuer à promouvoir une école qui soit surtout un lieu de débat, parfois de controverses autour des savoirs, mais qui refuse qu'elle devienne le champ de bataille de l'autoritarisme et du totalitarisme et du terrorisme de toutes sortes. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les forces réactionnaires semer le poison de la division et du racisme, que la terreur, elle ne se combat pas en pointant du doigt certaines minorités, en criminalisant certaines catégories de la population pour des appartenances religieuses présupposées, mais elle se combat bien au contraire par l'égalité et la solidarité. Et que c'est pour ça qu'il est extrêmement important aujourd'hui d'être solidaire des enseignants qui continuent à défendre une éducation émancipatrice, des enseignants qui continuent à défendre l'accès à l'esprit critique contre toute forme de caporalisme qui serait véhiculé par une idéologie d'État, et que ce triste événement d'Arras nous rappelle encore un peu plus que la liberté pédagogique des enseignants, elle est quelque chose d'essentiel pour lutter contre toutes les formes d'intégrisme et d'obscurantisme. Et c'est ce qu'on voulait souligner en ce début d'émission Idées Noires. Ça nous semblait important d'apporter à la fois notre soutien aux collègues, aux proches et aux élèves de Dominique Bertrand, mais au-delà de ça, à tous ceux qui se souviennent encore de Samuel Paty et tous les personnels de l'éducation nationale et des collectivités territoriales qui luttent pour faire que l'école soit vraiment un espace de liberté et un espace d'émancipation. Voilà, c'est avec ces mots qu'on voulait commencer cette émission Idées Noires. Là aussi, des mots avec les dont on saurait bien passer. On va faire une première pause musicale, peut-être un peu plus légère, avant d'aller faire un petit tour du côté du Proche-Orient, où là aussi se trame depuis quelque temps de tristes événements. Dans cette période marquée par l'intégrisme et l'obscurantisme, et ben rien de tel qu'une petite chanson anticléricaliste pour rappeler que nous, militants communistes libertaires, militants anarchistes, on a toujours été sans Dieu ni maître, et que toutes les formes de religion, quelles qu'elles soient, pour nous, sont forcément des formes d'obscurantisme et des formes de domination dont ils font s'émanciper. C'est pour ça qu'on va retrouver les René Binamé qui nous offre une très belle version du fameux Père Duchesne, un traditionnel morceau anarchiste. Un petit retard d'allumage, c'était le Père Duchesne interprété, revisité par nos camarades belges de René Binamé, chanson anticléricale anarchiste du 19e siècle. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, fous le bon Dieu dans la merde, c'est ce que devraient appliquer beaucoup de gens, et c'est vrai que ça réglerait beaucoup de problèmes sur cette triste planète. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu. Et on vous l'a dit, on va consacrer une large page de cette émission à la situation internationale, à ce qui se passe en Palestine et en Israël, parce que depuis déjà maintenant presque une dizaine de jours, l'horreur a répondu à l'horreur. Les centaines d'assassinats de civils en Israël, bien évidemment, ont été un drame, et un drame qui est une des conséquences, et qui va avoir pour conséquence des centaines d'assassinats de civils palestiniens qui vont être ensevelis sous les décombres de Gaza par les bombardements israéliens, comme c'est le cas depuis 2008. on peut tout simplement rappeler que tout a commencé maintenant le samedi 7 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'une dizaine de jours, où le Hamas a lancé une attaque coordonnée d'une ampleur qui est inédite sur le dit territoire israélien et sur les colonies israéliennes, détruisant en plusieurs endroits le mur qui entoure Gaza, s'emparant de plusieurs villages le long de ce fameux mur et kidnappant plusieurs dizaines de soldats et de civils. L'armée et les services de renseignement israéliens ont été complètement pris de court dans cette attaque et ont entamé une riposte extrêmement violente sur la bande de Gaza ainsi que sur le sud du Liban après l'envoi de roquettes par le Hezbollah qui est l'allié libanais du Hamas. Et du coup on dénombre aujourd'hui déjà plusieurs milliers de morts, aussi bien palestiniens qu'israéliens, pardon, plusieurs centaines de morts des deux côtés. Et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut que déplorer déjà les victimes civiles, quelles qu'elles soient, israéliennes ou palestiniennes, des victimes civiles qui n'ont pas à payer le prix des stratégies politiques d'un côté de l'État d'Israël et de l'autre côté du mouvement extrémiste religieux qui est le Hamas. Le Hamas qui, rappelons-le, est un mouvement nationaliste, un mouvement intégriste et religieux qui est issu des frères musulmans et qui est historiquement construit aux dépens des forces révolutionnaires et laïques et sociales palestiniennes. D'où le fait que, bien évidemment, on peut que dans un premier temps déplorer ces victimes civiles qui sont le résultat de cette logique. On peut aussi, dans une autre dimension, condamnée également toutes les instrumentalisations de ces violences qui ont eu lieu contre les populations civiles, quelles qu'elles soient, ici ou ailleurs, des instrumentalisations à des fins racistes, qu'elles soient anti-arabes ou qu'elles soient antisémites, ou qu'elles soient en appui à des régimes autoritaires comme celui de l'Iran, on le disait, qui est le principal soutien du Hamas, et qui est un mouvement nationaliste, on le rappellera jamais assez, intégriste religieux, qui pour nous ne peut pas être confondu avec la lutte d'émancipation du peuple palestinien. Et ça, c'est important de le dire, qu'il ne faut pas assimiler aujourd'hui le Hamas à la lutte d'émancipation palestinienne, à la lutte d'indépendance palestinienne, qu'il y a d'autres voies d'émancipation pour la Palestine et qu'il y a d'autres mouvements qui portent un projet social beaucoup plus émancipateur et qui malheureusement ont parfois été, y compris physiquement, liquidés dans les territoires palestiniens par les forces du Hamas. En tout cas, cette attaque qui a été lancée par le Hamas 50 ans, jour pour jour, après le début de la guerre de 1973 entre l'Égypte et la Syrie d'une part et Israël de l'autre, elle a été prévue, elle a été organisée de longue date depuis Gaza. Quelque part, il faut le reconnaître, hein, c'est inévitablement une réponse à la politique coloniale et d'apartheid de l'État d'Israël et de son gouvernement nationaliste, raciste, voire fasciste, en tout cas suprémaciste et colonialiste, qui a multiplié les provocations depuis déjà de longs mois. On peut rappeler la présence de l'armée israélienne sur l'esplanade des mosquées, on peut rappeler l'expulsion de Palestiniens, on peut rappeler le refus de toute solution politique et pacifique au conflit qui oppose les deux communautés. Et puis c'est aussi un gouvernement, bien sûr, qui a renforcé son soutien à la colonisation en Cisjordanie et qui n'a fait que jeter de l'huile sur le feu à la situation déjà explosive au Proche-Orient. Cette attaque, c'est aussi une réponse à la normalisation diplomatique qui est aujourd'hui en cours au plan international entre Israël et les États du Golfe, notamment avec l'Arabie Saoudite, et puis du soutien constant qui est apporté par les USA, mais aussi l'Union Européenne et la France au régime israélien, malgré le droit international et malgré ce qui avait été défini dans les années 90 à Camp David. Et puis au final, cette attaque, c'est aussi et surtout la conséquence de 75 ans de colonisation, d'exploitation brutale et raciste, d'occupation et d'apartheid de la part de l'État d'Israël face aux Palestiniens, arabes, druzes, juifs, venus d'Éthiopie. C'est la conséquence finalement du refus de toute solution politique d'une paix partagée, de la reconnaissance du droit au retour des réfugiés, qui est pourtant une des conditions qui est garantie par l'ONU. C'est une des conséquences du blocus de Gaza depuis aujourd'hui plus de 15 ans. Et puis, surtout, des discriminations et des violences quotidiennes qui sont vécues par les populations de cette région. Alors aujourd'hui, ce conflit, au-delà déjà de la situation dramatique et des crimes qui ont été commis aussi bien contre les populations israéliennes que contre les populations palestiniennes, il va avoir des conséquences dramatiques sur les sociétés de ces deux États sur les conditions de vie des populations palestiniennes. Par exemple, la fourniture d'électricité, de biens de consommation, elle a été arrêtée envers Gaza, qui en dépend pour son fonctionnement quotidien. Elle a été arrêtée, bien sûr, sur décision et par action du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui a prévenu qu'il était en guerre depuis cette attaque et que la riposte serait la plus violente de ces dernières années, engageant donc la population à évacuer la zone frontalière tout en entamant des bombardements sur Gaza. C'est déjà près d'un millier de Palestiniens qui ont dû, par un corridor étroit, fuir cette enclave de Gaza pour éviter de se retrouver sous les bombes. Ce gouvernement de Netanyahou, qu'on s'est corrompu, critiqué ces derniers mois par d'immenses manifestations de la part d'une partie de la population israélienne qu'on ne peut que soutenir et qui elle-même va être certainement mise au pas par l'état de guerre, ce gouvernement y mène une guerre qui est meurtrière, qui est permanente contre la population palestinienne et justifie donc son maintien au pouvoir par une politique toujours plus sécuritaire et toujours plus autoritaire. Et quelque part, c'est lui qui porte la responsabilité de la guerre et des morts des deux côtés aujourd'hui, même si le fanatisme du Hamas n'est pas à exclure. Et comme toujours, ce sont les populations civiles qui payent le prix des guerres qui sont décidées par, d'une part, les classes dirigeantes impérialistes ou par les mouvements intégristes religieux, que les prochains jours, avec l'annonce d'une offensive militaire à terre des troupes israéliennes, nous dira si l'attaque du gouvernement, l'attaque du Hamas, va signifier la fin du gouvernement de Netanyahou par l'échec de cette offensive, ou si au contraire, ça va provoquer une unité nationale d'une grande partie de la population derrière lui dans la guerre et donc cliver encore plus les populations dans ce conflit. En tout cas, aujourd'hui, la situation actuelle, elle est en tout cas la preuve de l'échec des politiques prétendant à une solution impérialiste et militaire en Palestine et qu'on peut que réaffirmer la lutte est légitime, la légitimité de la lutte du peuple palestinien pour son autodétermination, pour sa liberté, pour son droit à une vie digne, dans le cadre d'une fédération qui serait multiethnique, qui serait laïque, qui serait démocratique et qui serait sociale, bien loin des perspectives nationalistes, religieuses et guerrières qui sont celles qui lui sont aujourd'hui proposées, qui lui sont proposées par le Hamas, même si on comprend qu'aujourd'hui le mouvement d'un l'indépendance palestinienne se retrouve bien souvent dans une situation sans issue et qu'il n'aura pas d'issue tant qu'il n'y aura pas une garantie de paix juste au Proche-Orient et que tant qu'il n'y a pas la garantie d'une part tout d'abord par le droit international d'une paix juste au Proche-Orient, et ben cette perspective, elles font le jeu aujourd'hui des autocrates et des extrémistes et des intolérants de tous camps. On peut donc réaffirmer l'exigence de mettre fin aujourd'hui à la colonisation et à l'apartheid en Palestine, de respecter, on l'a déjà dit dans un premier temps, les résolutions internationales qui sont très simples, c'est celle de partage du territoire et du droit au retour, par exemple pour les Palestiniens. Ces résolutions internationales de partage de territoire et de droit au retour, c'est inévitablement un préalable à une solution au long terme. Et puis on peut que reconnaître aussi la légitimité de la résistance palestinienne, mais comme on le disait, d'une résistance palestinienne qui doit être populaire, qui doit être laïque, qui doit être démocratique, sociale et éventuellement révolutionnaire, tout comme on peut apporter que notre soutien aux militants et aux militantes anticolonialistes israéliens et israéliennes, qui sont plus nombreux qu'on le croit, et qui se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, pris d'un côté par un gouvernement d'extrême droite et militariste qui est celui de leur État israélien et qui sont tout simplement aussi victimes des exactions, des violences et des crimes du Hamas sans aucun discernement. C'est le propre des mouvements terroristes et intégristes. Signalons par exemple la disparition dramatique, si on peut juger d'une disparition plus dramatique que d'autres, mais en tout cas, nous, qui nous touche plus, de militantes féministes des femmes juives pour la paix ou de militants anarchistes, du mouvement anarchiste contre le mur, qui s'était installé dans les territoires colonisés pour justement être sur place, en solidarité, au contact avec les populations palestiniennes et pouvoir se faire l'écho des exactions israéliennes. Et ben, ils sont morts lors de ces affrontements, ils ne sont pas morts sous les bombes israéliennes, mais ils sont morts exécutés, massacrés par le Hamas au cours de nos offensives sans aucun discernement. C'est pour ça que aujourd'hui on peut que souhaiter et appeler tous nos voeux l'arrêt des violences aussi bien commises par l'armée israélienne que par le Hamas, des violences qui impactent lourdement les populations civiles des deux côtés. On le dit, on ne partage pas l'idéologie du Hamas, qui n'a pas à cœur les justes aspirations pour nous du peuple palestinien et qui ne porte aucun projet d'émancipation pour la Palestine. Nous soutenons par contre la lutte de résistance et de libération palestinienne. Nous comprenons la nécessité pour cette lutte, parfois de stratégies violentes, conséquentes d'une situation de blocage politique, mais nous pouvons qu'appeler à des solutions pacifistes avant tout, appeler tout d'abord à la démilitarisation de l'État d'Israël, à une vraie recherche d'une solution qui serait fondée sur les demandes légitimes du peuple palestinien, comme on le disait, celles qui ont été affirmées déjà dans les années 90, lors des accords de Camp David, par le droit international, le partage du territoire, le droit au retour pour les Palestiniens. Ce sont des conditions qui sont nécessaires à toute résolution durable de ce conflit. Voilà ce qu'on voulait dire tout d'abord sur cette situation de crise au Moyen-Orient. Une situation de crise qui risque d'avoir des conséquences extrêmement importantes dans la région, mais qui risque peut-être de s'embraser, notamment si le Hamas entraîne avec lui son allié libanais du Hezbollah, mais qui au-delà va y compris avoir des conséquences dans toutes les sociétés occidentales, européennes et autres. Parce que il va y avoir des clivages entre populations, on va opposer juifs et musulmans, arabes et occidentaux, pro-palestinien à pro-israélien, sur parfois des clivages qui ne sont pas les bons. Comme on le dit souvent, on ne peut jamais souhaiter la guerre entre les peuples, mais par contre entre les classes, et ce n'est pas les bonnes lignes de clivage qui vont faire écho et qui vont apparaître à ce conflit. Par ailleurs, on voit aujourd'hui comment ici le pouvoir tend pour criminaliser un peu plus le mouvement social, et notamment comment la criminalisation du soutien spontané à la cause palestinienne s'accentue aussi, et que nous, militants et militantes de l'UCL, on peut que dénoncer cette criminalisation et réaffirmer notre soutien à la cause palestinienne sans pour autant aucune complaisance envers les tentatives d'instrumentalisation ou envers les stratégies menées par le Hamas et ses alliés. En tout cas, on est très clair pour dénoncer le fait que l'État français et son ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui est toujours adepte de la surenchère sécuritaire et autoritaire, joue des interdictions et des dissolutions qui confond sans coup frémir antisionisme et antisémitisme. Et ce grand ami de l'État raciste et colonialiste israélien, aujourd'hui, a décidé en réaction d'interdire systématiquement tous les rassemblements pro-palestiniens, ce qui est tout bonnement scandaleux et ce qui est tout bonnement une atteinte à la liberté de manifestation et à la liberté d'expression. On peut que dénoncer l'interdiction de ces rassemblements, dénoncer la longue dérive autoritaire et islamophobe aujourd'hui du gouvernement macroniste dans lequel ces interdictions elles s'inscrivent, des dérives qui ne peuvent bien sûr bénéficier qu'à l'extrême droite à long terme, et puis dénoncer la répression féroce qui s'abat contre plusieurs organisations politiques de gauche qui ont exprimé leur soutien au peuple palestinien, bien que nous sommes lucides sur parfois des jugements hâtifs et parfois déplorables qui ont pu être fait par certaines organisations de gauche, voire dites révolutionnaires, et de leur analyse face à l'ampleur, le fait d'avoir minimisé les massacres commis par le Hamas, on peut que dénoncer quand même la répression qui est faite contre ces organisations qui appartiennent à notre camp social et qui donnent des billes un peu plus pour renforcer la répression des comportements va-t-en-guerre macronistes. islamiste. On peut enfin se réjouir, hein, pour une fois, de la décision qui a été faite par le Conseil d'État aujourd'hui, qui est tombée cet après-midi, qui a cassé justement cette décision du gouvernement et qui juge illégitime le fait d'interdire systématiquement tout rassemblement de soutien à la Palestine, et que enfin les préfectures devront voir au coup par coup et juger au coup par coup de la pertinence de ces interdictions. Alors bien évidemment, on ne se fait pas grande illusion, l'argument de trouble à l'ordre public sera vite trouvé par les préfets, mais en tout cas, il n'y a plus, par volonté du prince Macron et de son gouvernement, une interdiction systématique et automatique de toutes les mobilisations en solidarité avec la lutte palestinienne, comme c'était posé jusqu'à présent. Par contre, il y a toujours des répressions qui frappent des personnes et qui frappent des militants et des militantes.
Oui, on l'a appris avant-hier, c'est l'arrestation et l'assignation à résidence de Mariam Aboudaka, une militante de la cause palestinienne et surtout de la cause féministe en Palestine, alors qu'elle allait prendre le train entre Marseille et Toulouse, où elle allait donner une conférence. La police l'a conduite dans un de ces fameux CRA, un centre de rétention administrative, en vue d'une expulsion. La raison évoquée par le ministère de l'Intérieur, c'est un peu toujours la même, hein, c'est la menace qu'elle représente pour l'ordre public dans un contexte de vive tension. Voilà, donc la même raison qui a conduit à l'interdiction, comme tu viens de le dire, de tout soutien à la cause palestinienne, ou soutien même au peuple palestinien actuellement. Cette militante, donc âgée de 72 ans, est aussi visée par un arrêté d'expulsion, alors qu'elle avait obtenu début août, de la part des services consulaires français à Jérusalem, un visa de 50 jours pour se rendre en France, où elle devait ainsi participer à une série de conférences sur le conflit israélo-palestinien. Elle devait notamment se rendre à l'Assemblée nationale, mais la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, lui en avait interdit l'accès du fait de son appartenance au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est une organisation considérée par l'Union Européenne comme terroriste. Plusieurs faits laissent pourtant penser que sa présence ne représente aucune menace dans le contexte actuel, hein, pour reprendre les mots du ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, d'après le journal de la Provence, Mariam Aboudaka était hébergée à Marseille chez Pierre Stamboul, qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix. On comprend donc que la démarche ici n'avait pas pour but de créer des tensions, mais plutôt de créer du dialogue. Sauf qu'on sait que le dialogue, hein, notre gouvernement, il n'aime pas beaucoup ça, et il nous l'a bien prouvé ces dernières années.
Pierre Stamboul, au passage, qui est un militant syndicaliste de l'éducation nationale, membre de la tendance émancipation, et qui en effet a toujours eu à l'œuvre de faire émerger aussi les solidarités entre les forces syndicales françaises, israéliennes et palestiniennes, à travers justement une vision émancipatrice, laïque et révolutionnaire, telle que le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, est une organisation laïque, révolutionnaire et socialiste au sens large.
Donc voilà, s'il était prêt à l'accueillir chez lui, c'est bien qu'elle ne représentait pas spécialement de troubles à l'ordre public. Et en plus, le cycle de conférences donc auquel elle venait participer avait débuté bien avant le massacre perpétré par le Hamas en Israël, dont un ici à Lyon, qui aurait dû avoir lieu le 4 octobre dernier. Il semble donc que ce soit plutôt le contexte qui serve d'excuse pour expulser cet activiste et non l'inverse. Sauf que l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de son visa. Mariam Aboudaka est donc bloquée à Marseille pour encore une bonne quarantaine de jours et devra se présenter chaque jour au commissariat. Depuis qu'elle est arrivée en France fin septembre, cette militante pour l'émancipation des femmes en Palestine affirme, elle de son côté, avoir perdu 29 membres de sa famille dans les bombardements de Gaza par l'armée israélienne. Alors en ce moment, on demande à toute personne qui prend la parole publiquement de condamner un cas, un camp, un groupe ou une action. On ne va pas le faire ici. Nous, on préfère garder une vision politique des paroles et des actes des gouvernants. En revanche, on veut pointer l'hypocrisie de notre pays qui donne un visa à Mariam un jour et décide de l'expulser le lendemain. Cette crise humanitaire, humaine, révèle de plus en plus la crise politique, politicienne même, qu'on est en train de vivre en France et qui s'inscrit en droite ligne de la stigmatisation toujours plus forte des personnes n'ayant pas supposément la bonne religion, la bonne culture ou la bonne couleur de peau.
Et bien évidemment, comme tu le dis si bien, une expulsion qui est toute politique, parce que du jour au lendemain, on va changer d'avis en fonction des aléas politiques et des enjeux internationaux, ce qui bafoue tout simplement les règles essentielles du droit. Un droit, c'est un droit, il évolue pas d'un jour à l'autre en fonction de la météo politique et internationale. Donc on voit comment une militante progressiste palestinienne est victime de ça, et c'est quand même assez forte café, pour reprendre une expression qu'aime notre camarade Daniel sur cette antenne, de se rendre compte qu'on est capable de criminaliser le Hamas en l'agitant à juste titre comme le grand Satan, mais dans le même temps, les militants palestiniennes qui, eux, sont porteurs d'un projet émancipateur, laïque et social, de leur faire subir exactement le même sort et de les criminaliser aussi. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale à la moitié de cette émission Idées Noires passées. Vous êtes toujours sur le 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Et avant d'aller continuer notre page internationale, en allant faire un petit tour du côté du Kurdistan, parce que c'est pas sans lien avec ce qu'on vient d'évoquer, on va retrouver la Brigada Flores Magón qui nous chante tout à propos de la Palestine ou du Kurdistan. Pas de justice, pas de paix.
Et toujours à l'écoute d'Idées Noires sur le 102.2. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h et nous allons continuer cette page internationale, comme tu l'as dit David, avec le Kurdistan, donc toujours en lien avec ce qui se passe au Proche-Orient.
Exactement, parce que la situation internationale, elle est aussi marquée par le silence qui est fait face aux crimes de l'État turc au Kurdistan et particulièrement au Rojava. Un silence international qui est d'autant plus fort et renforcé par les événements d'Israël et qui permettent à toutes les démocraties occidentales de pointer du doigt ce qui se passe en Palestine de pouvoir faire oublier les exactions de leurs alliés turcs au Rojava. Il faut quand même préciser et que tout le monde sache très clairement que depuis mercredi 5 octobre, donc déjà 2 jours avant l'attaque du Hamas, les territoires de l'ANES, l'administration autonome du nord, de l'est de la Syrie, qui sont des territoires kurdes autonomes gagnés de haute lutte lors de la guerre au Syrie contre Daesh et qui ont permis de créer une autonomie kurde sur ces territoires de la Syrie qu'on appelle et de mettre en place ce qu'on appelle la révolution au Rojava, et ben ces territoires subissent depuis le mercredi 5 octobre une vague d'attaques de la part de l'État turc d'une ampleur sans précédent par leur violence, leur nombre et puis aussi l'étendue géographique des cibles visées. L'État turc, il utilise des armes lourdes, des avions de combat, mais aussi des dizaines de drones militaires qui ont ciblé principalement des infrastructures civiles et les populations de la région. Les villes, villages et les camps de réfugiés ont été lâchement bombardés par l'armée turque, faisant des dizaines de morts civiles et puis aussi parmi les forces de défense kurdes. Les conséquences les plus graves, c'est celles qui sont engendrées par les destructions d'infrastructures civiles vitales, comme par exemple les stations de pompage d'eau, les barrages, les récoltes agricoles, les stations-service, les installations de production de pétrole, de gaz, 2 hôpitaux qui ont été détruits. Enfin, la liste serait encore très longue et on pourrait l'allonger malheureusement. Régulièrement, l'attaque de ces 20 structures, ça fait des dizaines de morts. La plupart des grandes villes, dont leurs hôpitaux aujourd'hui n'ont plus accès dans cette région à l'électricité, et concrètement les conditions de survie pour l'hiver qui vient sont plus mauvaises que jamais et s'annoncent dramatiques et extrêmement précaires pour les populations du Rojava. Ces attaques, elles tombent pas du ciel. On connaît la volonté du gouvernement turc de faire disparaître cette enclave kurde aux portes de son territoire. Mais ces attaques, elles font suite en fait à la déclaration du ministre turc des Affaires étrangères, pour qui la justification de ces attaques est très claire. Il a dit que l'infrastructure du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et les unités de défense du peuple, les IPG, en Irak et en Syrie, constituent des cibles légitimes donc pour l'État turc, qui se permet donc d'intervenir en dehors de son territoire. Et dans le contexte de cette guerre qui est donc menée contre les Kurdes et contre le PKK depuis des décennies, l'État fascisant turc a ainsi décidé de punir le mouvement d'émancipation au Kurdistan, ainsi que toutes les populations qui vivent sur ces fameux territoires autonomes administrés par l'ANS, en représailles notamment de l'attentat suicide, qu'il faut le citer, qui a eu lieu à Ankara le dimanche 1er octobre, un attentat suicide contre le ministère de l'Intérieur. Alors on va tout de suite quand même replacer les choses, cet attentat il a été revendiqué et présenté comme tactique et symbolique par le PKK, et il a été lui-même commis en représailles des incessants bombardements de l'armée turque contre les positions du PKK, mais cet attentat, il n'a fait aucun mort, outre les 2 kamikazes qui se sont fait sauter, et il a fait 2 blessés légers, 2 policiers turcs qui sont à dénombrer, c'est tout. Il était symbolique, peut-être un symbole qui coûte cher en vie humaine contre le bâtiment du ministère de l'Intérieur, mais par contre, la réponse militaire turque, elle est de toute évidence disproportionnée et elle utilise cet attentat donc comme prétexte pour augmenter aujourd'hui l'intensité de la guerre déjà en cours contre le Rojava et contre les forces du Kurdistan. Alors, sans juger pour autant du bien fondé de cette fameuse décision militaire kurde ayant conduit à cet attentat d'Ankara, on peut bien sûr que réaffirmer notre soutien à la population kurde et à ses forces de défense. on peut que réaffirmer que celui-ci, que ces organisations ne sont pas des organisations terroristes, contrairement à ce que plusieurs organisations internationales veulent nous faire croire, mais que au contraire, c'est des organisations qui résistent et qui se battent dans une lutte légitime pour l'autodétermination contre le fascisme, le colonialisme et l'impérialisme de l'État turc, pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour contre l'exploitation capitaliste des ressources naturelles de leur région. On peut rappeler que quand ces mêmes forces se battaient contre Daesh aux côtés de des forces de la coalition américaine, elles n'étaient pas du tout vues comme terroristes. Et c'est simplement une fois la guerre contre Daesh finie, le désengagement des troupes occidentales dans cette région du monde, en Syrie, sous pression et sous demande de l'État turc, qu'elles ont finalement été jugées terroristes. Ça me rappelle un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au visa accordé à cette militante palestinienne. Un droit, c'est un droit. Un jour, on lui accorde, le lendemain, on ne lui accorde plus en fonction des aléas de la géopolitique internationale. Et bien là, c'est pareil. Les forces des IPG du Kurdistan, un jour, c'est les alliés des forces occidentales contre Daesh. Et puis le lendemain, parce qu'on n'a plus besoin d'eux et que malheureusement, elles ne se sont pas fait exterminer en première ligne des combats pour satisfaire son allié kurde, son allié turc, et bien on est prêt à criminaliser ceux qu'on a utilisés comme force de pointe face au fanatisme de Daesh. C'est tout bonnement dégueulasse, on l'a déjà dénoncé, on l'a suffisamment dit sur cette antenne. En tout cas, c'est les Kurdes qui font les frais, une fois de plus, des tristes enjeux et des tristes alliances géopolitiques internationales. En tout cas, on peut rappeler qu'après les guerres d'Afrine en 2018 et de Sérékenaïe en 2019, après les centaines d'arrestations qui ont eu lieu au Kurdistan de Turquie début octobre. Cette vague d'attaques, elle constitue une nouvelle étape dans la guerre que livre l'État turc donc à l'ANS, à ses territoires autonomes et plus généralement au peuple kurde dans son ensemble. C'est donc une offensive en fait qui s'inscrit dans la continuité d'une guerre de basse intensité qui est menée au long cours contre l'ANS, qui est habituellement menée par des moyens moins frontaux mais pas moins destructeurs, comme par exemple la guerre de l'eau, des assassinats ciblés par drones de responsables politiques, des déplacements de population, des blocus économiques, des guerres par des troupes intermédiaires de mercenaires, qui désorganisent et qui précarisent la société kurde, tout en cherchant à rester en dessous de ce que pourrait condamner la communauté internationale. Mais aujourd'hui, c'est une attaque frontale qui est donc menée par l'État turc et malheureusement, malgré l'ampleur de ces attaques actuelles, on peut constater le silence des médias, que ça soit en France comme ailleurs, le silence de la communauté internationale qui est écrasant, un silence il faut rappeler aussi le silence au sujet des attaques chimiques qui ont été menées dans les montagnes du Kurdistan contre les forces de la guérilla kurde, ou à propos par exemple de l'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, le leader du mouvement de libération du Kurdistan et du PKK, qui est fait prisonnier par l'État de Turquie depuis maintenant 1999 et qui est maintenu à l'isolement depuis bientôt 3 ans sans qu'aucune nouvelle de sa part ne puisse être obtenue. Dans ce contexte, la population du Rojava, elle est bien sûr mobilisée. Elle est mobilisée face à ces attaques. Elle organise de grandes collectes de sang pour soigner les blessés. Et elle s'est aussi massivement déplacée dans les rues le 9 octobre dernier pour la commémoration justement de l'arrestation d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce que veulent éteindre par tous les moyens l'État turc et les autres régimes impérialistes et autoritaires qui sont présents dans la région, que ce soit la Russie, la Syrie, l'Iran, l'Irak, c'est tout simplement et avant tout le projet de société qui est construit par l'ANS et qui est propagé par l'ensemble du mouvement international de libération du Kurdistan. Il faut rappeler que la révolution qui est en cours au Rojava, ainsi que les multiples résistance des peuples au Kurdistan, en Turquie, en Irak ou en Iran, ça les terrifie, que tous ces régimes autoritaires sont conscients de la force et de l'espoir qu'incarne le Rojava au sein du Moyen-Orient et dans le monde pour les révolutionnaires, les progressistes, pour les femmes, pour les exploités, pour les peuples qui sont victimes de l'impérialisme, que l'expérience de l'ANS, de cette fait de ce territoire autonome, en fait, il incarne la possibilité concrète de voir fonctionner une société démocratique qui fonctionnerait en dehors d'un cadre étatique, qui fonctionnerait sur la base de la libération des femmes face au patriarcat, de la possibilité de rassembler dans un système démocratique et pluraliste des peuples et des communautés diverses par leur appartenance culturelle et ou religieuse, et que ce projet, c'est tout simplement le projet social et culturel le plus émancipateur qui est porté à l'échelle du Moyen-Orient, et que du coup, si nos ennemis sont conscients de ce qui les menace, eh ben, nous devons être d'autant plus solidaires avec la lutte des peuples du Kurdistan. On l'a toujours dit, la révolution elle est internationale, et eh ben, la lutte pour l'émancipation au Moyen-Orient menée par les IPG, ben, c'est aussi la nôtre. Plus que jamais, on doit soutenir cette révolution démocratique, sociale, antipatriarcale et écologiste. Et on doit avant tout aujourd'hui briser l'omerta médiatique et politique qui pèse sur les violences qui sont commises contre le Kurdistan. S'il y a bien un mouvement émancipateur à soutenir au Moyen-Orient, c'est pas le Hamas qui mène le peuple palestinien dans une impasse. S'il y a un mouvement émancipateur, c'est celui qui est porté par le Rojava, par les IPG, par cette force d'émancipation qui se met en place concrètement sur le territoire du Rojava. Et c'est pour ça qu'on doit aujourd'hui réclamer et lutter pour l'arrêt des attaques de l'État turc sur le Rojava et sur les territoires kurdes en Turquie et en Irak, et être solidaire de tous ceux qui sont victimes de cette répression, des prisonniers et des prisonnières kurdes, des militants, des journalistes qui sont victimes aujourd'hui de cette vaste répression de l'État turc. Voilà, triste situation qui est fait au Rojava et qui malheureusement arrive en plein conflit israélo-palestinien sur lequel tous les médias, les caméras et les focus médiatiques sont tournés et qui permet à l'État turc de mener sa sale besogne et sa sale guerre au Rojava en toute impunité. À nos petite échelle et avec notre petit moyen, on essaiera de faire toute la lumière possible et de relayer, d'être solidaire avec la résistance kurde au Rojava. Voilà, c'est avec ces paroles qu'on termine cette longue page internationale qui a animé cette émission Idées Noires. Une fois n'est pas coutume, comme on l'a dit, on aurait bien aimé s'en passer, mais malheureusement l'actualité internationale nous a rattrapés et je crois qu'il était important d'apporter ces éclairages. On va terminer quand même cette émission avec une petite page sociale qui donne un peu de baume au cœur, parce que tout ce qu'on a dit c'était pas très joyeux jusqu'à présent, de l'attentat d'Arras au conflit israélo-palestinien, on passe par les violences de l'État turc sur le Rojava. On revient ici, Daniel n'est pas là pour nous faire part de ses brèves et luttes sociales, mais incontestablement il sera là la semaine prochaine. Mais il y a quand même des luttes qui sont menées, des luttes émancipatrices, notamment celles qui sont menées par les sans-papiers en perspective des Jeux Olympiques.
Et oui, on en parlait il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas si tu te souviens, des JO d'Uzbol. On avait une page quasi hebdomadaire sur ce classement des villes qui mettent le Zbeul dans les déplacements présidentiels et ministériels. Là, on a le droit au Zbeul des JO, carrément, et ça fait du bien. C'est des employés sans papier du secteur du bâtiment qui arriveraient directement en tête de ce classement, hein, s'il avait encore lieu, grâce à leur grève et l'occupation du site de l'Arena, situé Porte de la Chapelle, futur lieu des JO de Paris. Et hier, ils étaient déjà plusieurs centaines à s'être mis en grève et à avoir occupé les lieux. Leurs demandes, elles sont pourtant simples, hein, et on s'étonne encore de devoir, en 2023, lutter pour y avoir droit. C'était tout simplement des conditions de travail et des cadences de travail dignes, un salaire juste, des contrats stables, et le fait de pouvoir être reçu en préfecture afin de demander leur régularisation, et enfin cesser d'avoir peur chaque jour d'être expulsé alors qu'ils vivent et travaillent ici. Des employeurs rapaces donc qui n'hésitent effectivement pas à embaucher illégalement, à moindre coût, les mettant par là même en danger. Danger d'expulsion d'une part, mais aussi en danger physiquement à cause des conditions de travail indignes. Ce mouvement, il est suivi dans plus d'une trentaine d'entreprises en Île-de-France qui participent donc à la construction de ce que Macron souhaite être une grande fête pour la France, mais sans se soucier des droits du travail, des droits humains ou du principe même de dignité. L'Humanité d'ailleurs a publié quelques témoignages de ces travailleurs On peut lire par exemple Sekou qui dit qu'une fois nous sommes même intervenus dans un appartement où le locataire était décédé depuis 2 semaines. Nous n'avions même pas de gants, mais comme nous n'avons pas de papier, la peur de se faire licencier était très forte. Il y a aussi Mustapha qui témoigne. Dernièrement, on m'a payé 800 euros pour 203 heures de travail. Avec mes collègues, nous sommes mobilisés pour réclamer des comptes. La direction a menacé de mettre fin à nos missions. Bob qui dit qu'il m'est déjà arrivé d'effectuer le travail des cordistes alors que je n'ai pas la formation adéquate. Je n'avais pas de harnais de sécurité, mais juste des cordes pour me tenir dans le vide. Ou enfin Abdel qui dit j'ai travaillé au contact de l'amiante dans la poussière. On devait tenir toute une semaine avec les mêmes masques, alors qu'en pratique, il nous en faudrait un par jour. Voilà, donc des témoignages glaçants. Et dans un communiqué publié par plusieurs organisations, dont la CNTSO ou le collectif Gilets Noirs, on dénonce le double discours de l'État également et du gouvernement qui profite de ces personnes immigrées, avec ou sans papier, pour construire les bâtiments du JO d'un côté, mais qui les stigmatise de l'autre, qui les pointe du doigt pour justifier tous les maux du pays. Et la loi Darmanin, qui est toujours dans les tuyaux, ne va faire qu'aggraver leur cas. Le communiqué de la CGT rappelle, lui, que les travailleuses et travailleurs immigrés représentent 40 à 62% des secteurs de l'aide à domicile, du BTP, du nettoyage ou de l'agroalimentaire. Mais pour finir, donc tu l'avais dit, hein, bonne nouvelle, on vient de l'apprendre et merci aux camarades de Canu Info sans qui on serait sûrement passé à côté de l'info. 450 dossiers de régularisation ont pu être débloqués et on espère qu'ils arriveront à leur terme. Et 400 dossiers sur 650 personnes en grève, certes ce n'est pas assez, mais le ratio est pas mauvais et ça prouve que la lutte, ça paye.
Exactement, et on peut saluer notamment, comme tu l'as dit, nos camarades de la CNTSO qui sont particulièrement actifs dans les secteurs du travail précarisé, du nettoyage, de la construction et des travailleurs précarisés sans papier, et qui ont su une nouvelle fois organiser de façon solidaire et collectivement ces travailleurs pour en partie mener cette lutte avec d'autres aussi.
Et de manière efficace.
Bravo. Donc comme quoi, l'union fait la force. Quelques mots sur le RSA, Rémi, pour finir, ou on termine en musique?
J'aimerais bien quand même, on en reparlera dans les jours, dans les semaines qui viennent, probablement, parce que la bataille ne fait que commencer. Mais oui, je voulais quand même parler un petit peu du RSA, puisqu'il va évoluer et pas dans le bon sens. C'était le 10 octobre dernier, la loi dite pour le plein emploi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Même si ce texte n'est pas centré uniquement sur le RSA, il poursuit la logique destructrice des acquis sociaux largement entamée par Macron depuis sa première élection, et particulièrement aussi lors des deux réformes dont on a beaucoup parlé, hein, celle de l'assurance chômage et celle des retraites. Et cette fois-ci, comme souvent, elle vient toucher les plus pauvres parmi les plus pauvres. Pour Emmanuel Macron, comme il dit, il est temps, je cite, d'aller chercher celles et ceux qui sont au RSA pour les aider et les responsabiliser. Alors, faut le rappeler, hein, le RSA, c'est 607 euros pour une personne seule, et ça ne permet pourtant déjà pas de mener une vie digne, encore moins dans le contexte d'inflation actuelle. Et ça va être encore pire dans les semaines qui viennent si tout cela passe. Pour rappel, on compte aujourd'hui 1,8 million de foyers bénéficiant du RSA, soit 4 millions de personnes si on compte les conjoints, les conjointes et les personnes à charge. Et ces personnes, en plus de devoir se serrer la ceinture, doivent répondre à tout un tas de contrôles, de critères, de contraintes, soi-disant pour endiguer la fraude. Une fraude aux aides sociales estimée à 351 millions d'euros, bien loin des 14,6 milliards de la fraude fiscale. C'est toujours intéressant de remettre ces deux chiffres en perspective. Alors que les allocataires du RSA sont de plus en plus stigmatisés, évidemment pointés du doigt comme les assistés de la société. Un assistanat qui a même été outrageusement qualifié de cancer de la société par notre cher président de région Laurent Wauquiez. Pourtant, on estime qu'un tiers des personnes éligibles au RSA, seulement un tiers en font la demande, découragés par des formulaires ou trop éloignés des centres d'accueil de la CAF. Donc voilà, là, c'était un petit résumé, mais qu'attendre de la réforme qui s'annonce? Il y aura trois changements principaux. Déjà, d'une Premièrement, chaque personne faisant les démarches pour obtenir le RSA sera obligatoirement inscrite sur la liste des demandeurs et demandeuses d'emploi. Il y aura le fameux contrat d'engagement obligatoire qui devra être signé avec l'obligation d'une activité hebdomadaire de 15 heures. Et enfin, une sanction de, je cite, suspension-remobilisation qui sera instaurée si le bénéficiaire du RSA n'est pas assez docile aux yeux de France Travail, par exemple. Et pire, même si le projet de loi est adopté tel quel, c'est le conseiller seul qui pourra décider de suspendre ou de diminuer le RSA d'une personne. Il y a donc plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. Alors qu'on compte un ou une conseillère pour environ 98 allocataires, ces contrats d'engagement vont-ils pouvoir se dérouler sereinement? Comment les 40% de bénéficiaires du RSA qui travaillent déjà vont-ils pouvoir effectuer ces fameuses 15 heures d'activité? Comment justifier aussi 607 € par mois pour 15 à 20 heures de travail par semaine, ce qui équivaut à 7 € de l'heure, alors que le SMIC est à 9 € de l'heure. Voilà, donc toutes ces questions ne resteront pas sans réponse. On parlera de ça la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Inévitablement, je crois que cette question autour du RSA, elle va agiter toute l'automne, et puis on espère qu'il y aura des mobilisations à relayer autour de ça.
On précise aussi d'ailleurs que c'était déjà le cas, mais ça va encore empirer la situation des gens les plus précaires. On l'a vu tout à l'heure avec les sans-papiers, et ce sera aussi le cas pour les femmes.
Tu parlais de notre brave président de région, Laurent Wauquiez. Juste une petite info pour montrer tout le progressisme de ce brave homme. Après l'attaque au couteau qui a tué un enseignant à Arras, dont on a parlé au début de cette émission, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a demandé aujourd'hui au pouvoir d'expérimenter des logiciels de reconnaissance faciale aux abords des lycées, notamment pour identifier les personnes suivies pour